Alors que nous sommes à l'heure où Jésus a donné sa vie pour nous, avec les mots qu'il nous a laissés, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà, nous arrivons, chers frères prêtres, à notre dernier entretien de cette retraite, vendredi, 15h, l'heure où le Christ a donné sa vie. Mais Saint Jean nous le disait ce matin, c'est un passage, cette mort, c'est sa Pâque, et il est déjà entré dans sa résurrection. Mon vicaire général, qui est bibliste, professeur à l'Institut catholique, Père Christophe Rimbaud, aime rappeler souvent que le mot « évangélion », bonne nouvelle, est un terme militaire au départ, je pense que vous le savez. C'est un terme militaire qui signifie la victoire. L'évangélion, c'est la nouvelle qu'on venait apporter à un général. En général, c'était deux soldats qui allaient l'annoncer, qui annonçaient l'évangélion, la victoire sur l'ennemi. Donc rappelons-nous que ce que nous avons à annoncer à vivre est une victoire. Nous l'avons chanté ce matin d'ailleurs de belle manière, « Victoire, tu régneras, aux croix, tu nous sauveras ». Alors cet après-midi, pour conclure, j'aimerais vous proposer d'abord de traverser le chapitre 20. Vous avez dit de lire le chapitre 20-21, si vous le vouliez, pour cette dernière rencontre, sachant que, comme dit, je vais traverser rapidement le chapitre 20, parce que le chapitre 20, ce sont quatre scénettes qui vont nous donner quatre éclairages complémentaires sur le mystère de la résurrection. Et puis on s'arrêtera ensuite, dernière rencontre, on la traversera vite, pas vite pour des raisons de temps, mais vite parce qu'elle est très courte et qu'elle doit nous amener à l'épilogue. Ce sera la dernière rencontre en Saint Jean, c'est Pierre et Jésus au bord du lac de Galilée. J'aimais bien, quand je faisais mes études de théologie, j'étais à l'université grégorienne, j'étais en troisième année de baccalauréat, j'avais comme responsable pour la synthèse dogmatique le père Bernard Ardura, certains le connaissent peut-être, il est à Rome, encore aujourd'hui, prémontré. On devait choisir un théologien pour faire sa synthèse dogmatique et j'avais choisi un certain Joseph Ratzinger. Et j'avais lu pour cela, qui n'est pas traduit, c'est dommage, en français, mais qui existe en italien et d'abord en allemand, sa petite dogmatique en 9 volumes. Et oui, c'est Ratzinger. Voilà. Mais qui est assez remarquable. Je trouve pour moi, c'est un manque. Alors ça va peut-être être traduit maintenant qu'il est... Il est au ciel, il va peut-être intercéder pour que les imprimeurs travaillent mieux. Mais il avait, en particulier, moi, il m'avait beaucoup éclairé. Quand j'étais sur un traité autour de l'Eucharistie, il y avait Saint Thomas, et puis il y avait les Mysterium Lærer dans toute la tradition, la réforme, du renouveau liturgique du fin 19e, début 20e siècle. Je n'arrivais pas à faire la synthèse entre les deux, vous voyez. Il avait donné une petite clé que j'avais trouvée intéressante. Il disait, on monte sur une montagne par plusieurs chemins. Moi, ça m'avait beaucoup apaisé. On monte sur une montagne par plusieurs chemins. Par un chemin, on va avoir telle vue. Et donc, on a la vue de Saint Thomas. Puis on monte par un autre chemin. On a la vue des liturges. Et puis on monte. Voilà. Et tout cela n'est pas contradictoire, mais apporte quelque chose à la montée, nous permet, quand on est en haut, de mieux voir. Et c'est un peu ça. Il y a quatre montées comme ça que nous donne Saint Jean, où il nous donne des choses très complémentaires. Alors, la première rencontre, c'est au verset 1 du chapitre 20. C'est le premier jour de la semaine. À l'aube, il fait encore sombre. Marie de Magdala se rend au tombeau, voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et il leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Alors Pierre sortit ainsi que l'autre disciple et ils allèrent au tombeau. Il y a de très belles représentations. On voit Pierre et Jésus, je pense que vous avez déjà vu, il y a des tableaux célèbres. Il y en a au musée d'Orsay, où on les voit courir tous les deux. On voit la lumière dans leurs yeux. Ils tendent à aller voir ce qui s'est passé. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entre pas. Arrive à son tour Simon Pierre, qu'il suivait. Il entre dans le tombeau, considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. Alors, que se passe-t-il ? On est au petit matin. Marie de Magdala est allée au tombeau, certainement pour finir le travail d'embaumement du corps. On a dû décrocher des corps très vite. Venait le Shabbat, venait la fête de Pâques. On a dû aller très vite décrocher des corps, mettre le corps de Jésus dans un tombeau neuf. Joseph d'Arimathie, on sait, avait fourni ce qu'il fallait. Voilà. Et puis, Marie arrive au tombeau, le corps de Jésus n'est plus là. Elle va immédiatement prévenir Pierre et l'autre disciple. Ces deux-là courent. Il y en a un qui court plus vite que l'autre. Ça s'explique par l'âge. Et puis, voilà que eh bien, celui qui arrive le premier n'entre pas dans le tombeau. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait, il entre dans le tombeau. Alors, la prédication d'édification, hein, qui n'est pas sans mérite, nous dira, ben voilà, l'autre disciple attend le prince des apôtres pour que lui, le premier, seul, entre dans le tombeau. Pourquoi pas, hein, je ne dis pas que c'est faux. Hein, mais il y a peut-être une explication beaucoup plus claire. Pourquoi un s'arrête et l'autre rentre. Et cette explication, je voulais un peu donner ce matin. Celui qui est ce fameux disciple bien-aimé qu'on suit comme le petit pousset depuis le début du bord du Jourdain, eh bien, on sait qu'il est de cercle sacerdotal. Il y a même de grandes chances qu'il soit lui-même un prêtre. Et s'il l'est, ça explique tout à fait pourquoi il se passe ce qui se passe dans cette scène. Le disciple que Jésus aimait, s'il est prêtre, arrive au tombeau et évidemment il ne rentre pas. Parce qu'un prêtre ne rentre jamais dans un tombeau, il n'a pas le droit d'y rentrer. S'il y rentre, il devient impur. Dès qu'on rentre dans un lieu de mort, dès qu'on touche le sang, c'est fini. Et on doit passer par des rites de purification complexes avant de pouvoir être réintroduit dans la liturgie du temps. Il n'est pas interdit de penser, l'hypothèse est portée historiquement, exégétiquement, que celui qui est le personnage énigmatique qu'on voit sans arrêt en filigrane et qui peut-être est Jean, eh bien, est un prêtre du temple. Il connaît, il nous a construit un évangile qui est complètement liturgique, il nous fait toutes les rencontres de Jésus durant les fêtes liturgiques, il nous fait tourner autour du temple, il nous fait de Jésus un temple nouveau, et ben voilà. Et il entre chez le grand prêtre comme chez lui, ben, il rentre chez le grand prêtre, ça c'est sûr, mais il ne rentre pas dans un tombeau. Et c'est uniquement quand Pierre rentre qu'il va finalement rentrer. Et il va rentrer parce que Pierre est rentré le premier et lui dit ce qu'il voit. Et il voit quelque chose de très intéressant. D'abord, il ne voit rien. Vous savez bien, c'est le premier élément de la résurrection. C'est d'abord le tombeau vide. Le corps n'est plus là. Vous savez aussi toutes les légendes urbaines, hein, il a été volé, il a été déplacé. On ne va pas faire le Da Vinci Code, hein, ou les hypothèses, voilà. En tout cas, le corps n'est plus là. Par contre, qu'est-ce que voit Simon-Pierre ? Il considère les bandelettes posées là, le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été posé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. Et donc on se dit, ça y est, c'est formidable. Le premier charisme de la résurrection, c'est la grâce du ménage. J'invente rien. Je lis. On a fait le ménage. Non ? Première chose que Jésus a fait, c'est qu'il s'est amusé à rouler les bandelettes. Il a roulé un truc à part d'un autre. Il n'est pas en train de nous dire quelque chose, là. Alors, quand vous êtes avec un juif et que vous lisez ça, il rigole. Pourquoi il rigole ? Il dit il y a des chiffons, bon, très bien, mais il y a quelque chose qui est roulé à part dans un autre endroit. Alors un chrétien va se dire, oui, bon, mais un juif, quand on lui dit qu'il y a quelque chose qui est roulé à part, il sait tout de suite ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est roulé à part pour un juif ? La Torah. Ce qui est roulé à part pour un juif, c'est la Torah. C'est la parole. Or, qu'est-ce que nous a dit l'évangéliste ? Qui est peut-être celui qui est dans le tombeau et qui est peut-être prêtre et qui nous fait une lecture théologique de ce qui se passe. depuis le début, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous dit, qui est ce Jésus? C'est la parole. C'est la nouvelle Torah. C'est la nouvelle loi. Donc la première indication qui nous est donnée, c'est que le tombeau est vide. Et en plus, nous avons une indication qui prend force dans la lumière du judaïsme. Jésus est vraiment la nouvelle loi, il est vraiment la nouvelle Torah. Et il laisse un indice pour ça. Deuxième récit. La foi en la résurrection donc commence par le témoignage d'autrui. Il a fallu que Marie-Madeleine aille annoncer à Pierre et à Jean. Et la foi en la résurrection passe par le tombeau vide et peut-être aussi par des indices que Jésus nous laisse. Deuxième récit. Marie de Magdala reste dehors près du tombeau. Elle pleure. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Elle voit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre au pied. Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Tout en parlant, elle se retourne. Et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Et Marie de Magdala, bien évidemment, est l'apôtre des apôtres. Elle va annoncer ce que Jésus vient de lui dire. Deuxième scène, qui est en complément. Qu'est-ce qui se passe? Marie de Magdala est en train de pleurer. Elle n'y voit pas clair. Et que va-t-il se passer? Elle va se pencher dans le tombeau. Et quand elle se penche vers le tombeau, en pleurant, elle se penche vers le tombeau, nous écrit, hein, c'est verset 11. Et c'est en se penchant vers le tombeau, en se penchant à l'intérieur, qu'elle va faire la rencontre de Jésus. Elle se penche à l'intérieur et comment est-ce qu'elle va reconnaître Jésus? Jésus va lui parler. Tout en parlant, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là. Et alors s'instaure le dialogue et alors elle le reconnaît. Elle va se retourner deux fois. Vous avez ça au verset 14 et vous avez ça au verset 16. Se retourner dans le langage de l'évangile, ça s'appelle... une conversion. Marie de Magdala va faire l'expérience suivante. Elle pleure, mais en se penchant à l'intérieur, elle rencontre le ressuscité qui vient à elle. Elle vit une conversion, un retournement, qui la met face au Christ, qui l'appelle par son nom. Elle fait l'expérience du ressuscité vivant. Ça veut dire que la résurrection, ce n'est pas seulement quelqu'un qui m'annonce quelque chose, comme dans la première scénette. Ce n'est pas simplement de constater que le tombeau est vide. C'est deuxièmement de faire l'expérience du ressuscité vivant. Et l'expérience du ressuscité vivant, ça suppose de se pencher à l'intérieur, d'entrer dans l'intériorité et de rencontrer Jésus dans cette intériorité. C'est la formule de Saint Bernard que je vous citais, qu'il donne dans le Cantique des Cantiques. Bien des fois, le Verbe m'a visité intérieurement. Bien des fois, il est entré. Bien des fois, il est sorti. Je ne sais comment. L'expérience du ressuscité. La résurrection, c'est l'expérience, c'est un témoignage d'abord, mais c'est ensuite une expérience que nous faisons. Et d'ailleurs, on voit immédiatement, comme je vous l'avais dit dès le premier jour, l'authenticité de la rencontre. L'authenticité de la rencontre, c'est qu'elle devient évangélisatrice. La joie de l'évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui rencontrent Jésus. C'est la joie de Marie de Magdala qui rencontre le ressuscité, qui transforme sa vie et la fait évangélisatrice. Donc le tombeau vide et la rencontre du ressuscité dans notre expérience spirituelle. Parce que ça vaut pour nous. Vous savez, la formule de Nietzsche, elle est un peu facile, mais je croirai un peu plus en l'évangile quand les gens, les chrétiens, ont un peu plus une tête de ressuscité. C'est un peu facile, hein, parce que même si on croit en Jésus ressuscité, on a des feuilles d'impôt, on a des rages de dents, enfin, comme les autres. Voilà, on ne peut pas avoir toujours un sourire, on ne met pas des élastiques la nuit pour voilà, le matin. Non, bien sûr, on a nos problèmes comme les autres. Mais la joie comme rencontre du Christ intimement ressuscité, passant dans nos vies, c'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, quand on a un peu d'expérience spirituelle, un peu d'expérience pastorale, vous le savez bien, on sent très vite quand quelqu'un a fait la rencontre de Jésus, quand il ne l'a pas encore vraiment fait. Je ne sais pas pour vous. Il y a des gens, on sent qu'ils sont dans les périphéries de la foi. C'est pas mal, mais ils sont dans la morale, ils sont dans le devoir, ils sont, c'est bien, c'est, attention, hein. Il faut être très précautionneux. Mais on sent qu'ils n'ont pas encore basculé dans l'intimité du Christ et sa rencontre. Jésus vivant. Troisièmement, alors, troisième scène, c'est le soir de ce même jour. S'en passe des choses ce jour-là, il y a le matin, il y a ensuite, et puis il y a le soir. Premier jour de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. À nouveau la joie, la rencontre. Alors à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé à mon tour, je vous envoie ». La joie est toujours ce qui va précéder l'évangélisation. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Cette scène, elle est très intéressante. Elle a lieu le lendemain de Pâques. Jésus se manifeste aux 10 apôtres, parce qu'il n'y a ni Judas évidemment, mais il n'y a pas Thomas non plus, on l'apprendra ensuite. Et Jésus se manifeste, c'est très intéressant, il va être au milieu des apôtres, où se trouvent les apôtres avec les portes verrouillées. Les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux. Jésus rentre toute porte close. Jésus rentre toute porte close. Ce qui manifeste évidemment la nouvelle condition dans laquelle il se trouve. Vous savez que saint Ignace de Loyola en tirera un principe concernant la consolation dans la vie spirituelle. Saint Ignace dit qu'il faut toujours se méfier de la consolation. D'abord, on apprend plus par la désolation que par la consolation, et il faut être très méfiant avec la consolation. Pourquoi ? Parce que la consolation peut nous conduire à une sorte d'ébriété spirituelle qui peut nous faire prendre des décisions tout à fait inconvenantes, parce qu'on se croit déjà avoir des ailes dans le dos, enfin, etc., etc. Et il dit la seule consolation dans laquelle nous pouvons avoir confiance, vraiment, c'est la consolation toute porte close. Et il emprunte l'expression ici. Qu'est-ce que c'est que la consolation toute porte close ? Il dit, la consolation habituellement nous vient par les sens. Consolée par les sens, une paix sensible, une joie sensible. Par exemple, j'écoute un magnifique morceau de musique, j'ai une consolation spirituelle. Ce n'est pas une consolation spirituelle venant de la grâce de Dieu, mais c'est une consolation par la joie que j'ai. Ça passe par la sensibilité. Je participe à une belle liturgie, je sors, j'ai une consolation sensible. J'espère que vous en avez eu quand même quelques-unes durant cette semaine, parce que ça valait la peine. Hein. Je suis arrivé au Loud un jour un peu en retard et j'ai profité de votre chant en étant de l'extérieur. Je vous assure que ça portait. Voilà. Et je vous en remercie d'ailleurs, parce que c'était vraiment très beau de vous voir ainsi prier. Donc, voilà, il y a une consolation qui vient, si vous voulez, par la sensibilité. Cette consolation n'est pas mauvaise, elle est légitime, mais, nous dit saint Ignace, l'esprit mauvais est capable de limiter cette consolation. Pour nous tromper. Pour nous mettre en état de... Comme dit, on se croit pousser les ailes, ça y est, je marche sur l'eau, là, je suis... consolation sensible, à la fin de la liturgie du dimanche, les gens viennent vous admirer pour vos beaux atours, pour votre tenue, pour votre homélie qui était tellement édifiante, la fameuse citation que vous avez faite de saint Thomas d'Aquin qui est tellement brillante. Enfin, voilà, en général, on est à 5 cm au-dessus du sol quand on est... Voilà, voilà. Et ça, c'est une consolation dont il faut se méfier. Saint Ignace dit « La seule consolation dont on n'a pas à se méfier, c'est la consolation sans cause. » Sans cause créée antécédente, très exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis pris par une consolation intérieure, toute porte close, qui ne passe pas par les sens. Les portes dans la tradition spirituelle, ce sont les cinq sens. Les portes et les fenêtres de l'âme, on dit, dans toute la théologie médiévale, et Ignace dépend encore du vocabulaire médiéval. Saint Ignace, quand il parle des portes, comme Jean de la Croix, hein, c'est les cinq sens, les cinq portes. Mais nous pouvons avoir des consolations qui passent par les portes des sens. On a écouté quelque chose, on a goûté quelque chose. Voilà. Mais parfois, une consolation vient intérieurement sans qu'il n'ait rien qui l'ait provoqué extérieurement. Vous êtes en train de marcher dans la rue, vous allez tranquillement, je ne sais pas, faire à telle ou telle réunion, tout d'un coup vous êtes pris intérieurement par une consolation de joie, de paix qui peut même vous faire monter les larmes aux yeux, qui peut, voilà. Ça, c'est une consolation sans cause antécédente créée, c'est toute porte close. Cette consolation, vous pouvez vous dire, ça c'est l'œuvre de la grâce en moi. Donc Jésus apparaît, se manifeste toute porte close, dit la paix soit avec vous, ils sont tous dans la joie. Il leur montre ses mains, il leur montre son côté pour vraiment s'identifier. Il est vraiment le même, tout en n'étant plus le même. Il est dans une nouvelle condition. Et puis il leur redit « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux, leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Et donc il leur donne la mission de la réconciliation, du pardon. Il y a une mission très particulière qui est donnée aux 12 de réconcilier. Mais, en fait, cette scène que vous avez, pardonnez-moi d'y revenir encore une dernière fois, ne se comprend qu'à la lumière de la liturgie juive. En fait, c'est une liturgie à laquelle nous assistons. Pourquoi ? Parce que le soir du jour, qui est le premier jour de la semaine, dans la liturgie juive après Pessah, commence une nouvelle fête juive. La fête dite des semaines, la fête de Shavuot, que nous appelons nous plus volontiers la fête de la Pentecôte. Or, la fête de la Pentecôte est une fête en deux temps. Nous nous sommes habitués à la fête du bout du temps, les 50 jours, puisque cette fête est passée dans la liturgie catholique, chrétienne. En fait, cette fête commençait le lendemain de Pâques. Et que se passait-il ? Le grand prêtre rentrait dans le temple, prenait les prémices des récoltes et bénissait les quatre points cardinaux, le ciel et la terre, pour signifier que l'Esprit Saint remplit l'univers. Et donc, qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus agit comme le grand prêtre. Il ouvre la liturgie de Shavuot. Et il annonce le don de l'Esprit qu'il fait aux 12, don de l'Esprit qui sera accompli pleinement 7 fois 7 jours plus tard, le 50e jour, jour de la fin de la fête de Shavuot, où aura lieu la descente de l'Esprit sur la jeune Église en prière, comme Jésus avait demandé de le faire. Mais parfois, il y a des gens qui disent, c'est bizarre, il y a une Pentecôte dans les actes et il y a l'air d'avoir une petite Pentecôte ici. Ben oui, bien sûr, puisque la fête de la Pentecôte se célèbre en deux temps. Donc, nous avons là une liturgie. Ça va ? Quatrième petite scène. Alors, cette troisième scène, nous disons d'ailleurs que pour la mission, eh bien, c'est le don de l'Esprit, évidemment, qui va permettre d'annoncer la résurrection. On a appris qu'il y a un tombeau vide, on a appris qu'il faut faire l'expérience du ressuscité. On apprend ici que c'est à l'Église qu'est donné l'Esprit pour justement annoncer le ressuscité. Et puis quatrièmement, enfin, c'est saint Thomas, l'un des 12, qui n'était pas avec ce soir-là, et qui, vous le savez, va contester ce que les autres vont lui raconter. Nous avons vu le Seigneur, mais il répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée, de nouveau. Notez, il se tint au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » C'est exactement la même construction. Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main, enfonce-la dans mon côté, cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Cette petite scène, elle est très importante. Elle est très importante. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, nous avons entendu que la résurrection, c'est le témoignage d'autrui. Annonçant le tombeau vide, annonçant la résurrection de Jésus. C'est aussi une expérience de la rencontre du ressuscité, comme nous avons vu avec Marie de Magdala. Et puis c'est une expérience ecclésiale. Mais surtout, c'est une expérience qui est une béatitude. Thomas n'avait pas vu Jésus ressuscité, il va se manifester à lui. Et Jésus est obligé de lui dire, cesse d'être incrédule, deviens un homme de foi. C'est vraiment une invitation. On pourrait dire que ça suffirait qu'il ait vu. Non, Jésus lui précise, maintenant deviens un homme de foi. Il ne suffit pas d'avoir vu pour croire. Il ne suffit pas d'avoir vu. Il faut l'injonction du Christ, l'aide du Christ pour qu'il se mette à croire. Ça nous rappelle que la foi est un don. La foi est un don. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur sans l'Esprit. Et en Matthieu 16, vous savez bien, quand Pierre dira « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc la foi, ce n'est pas simplement de savoir des choses, d'expérimenter des choses, même de les expérimenter dans l'Église. C'est l'aide de l'Esprit qui va nous aider à croire. La foi est tout à la fois un acte plein de Dieu et un acte plein de nous-mêmes, une coaction, une synergie par laquelle nous consentons, c'est la définition que saint Thomas d'Aquin donne de la foi, un consentement à l'Esprit Saint, dans la somme. C'est le consentement à l'Esprit qui nous fait adhérer à la personne du Christ et qui nous fait adhérer à ce qu'il nous révèle, c'est-à-dire à des éléments que nous sommes appelés à croire. Il y a un contenu de la foi. Il y a une rencontre personnelle, subjective, et il y a un contenu objectif de la foi. Nous ne sommes pas des protestants. Mais Jésus dit ici à saint Thomas que vivre la foi dans le ressuscité, proclamer sa foi dans la ressuscité est une béatitude. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Pourquoi c'est une béatitude ? Parce que Jésus précise bien, bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Saint Thomas a la chance d'avoir vu Jésus. Mets ta main, touche, c'est bien moi. Mais je pense, enfin, moi qui ai une révélation particulière à faire cet après-midi, aucun d'entre nous n'a jamais vu Jésus ressuscité. Vous savez, c'est dans le film Thérèse d'Alain Cavalier, hein, où il y a un dialogue à un moment donné. Alors, je ne sais pas s'il est imaginaire, il est pris à partir des textes de Thérèse, mais il est reconstruit entre Thérèse et une novice, et à un moment donné, elles sont là toutes les deux en train de laver, en train de... Et puis, il y a un dialogue, et puis elles se disent, dire qu'on est amoureux d'un type qui est mort il y a 2000 ans et qu'on n'a jamais vu. Comment on arrive à faire ça sans devenir fou ? Bonne question, ça. Eh bien, on peut le faire parce que l'Esprit qui est en nous nous donne d'y adhérer et de le vivre en illuminant notre intelligence et notre cœur et en restant dans la paix et dans la joie. c'est le fruit de l'esprit. C'est la béatitude de la foi. Bienheureux ceux qui auront vu, qui auront cru sans avoir vu. Le seul fait que vous êtes là, que vous croyez au Christ ressuscité, atteste que vous êtes bienheureux, parce que l'Esprit habite en vous. Parce que si l'Esprit n'était pas en vous, vous ne resteriez pas 5 minutes à m'écouter. Non ? Ou alors j'ai une voix tellement agréable que vous resteriez quand même. Je n'ose espérer. Nous arrivons au chapitre 21. Vous voyez bien les quatre scénettes. Tombeau vide, l'expérience personnelle, l'expérience ecclésiale et l'expérience qui est permise par l'Esprit. Quatre éléments convergents sur ce mystère de la foi. Et nous quittons Jérusalem pour aller en Galilée pour quelques minutes. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Je vous passe le début du chapitre 21, vous le savez bien, il va y avoir une pêche. Les apôtres sont là, ils sont quelques-uns, Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, deux autres disciples. Ils sont en train de pêcher, ils vont passer la nuit à pêcher, ils ne prennent rien. Voilà. Et au petit matin, alors qu'ils ont fait vache maigre, quelqu'un du bord du rivage leur dit « Eh bien les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?»« Non, répondirent-ils. » Et il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » C'est un bien d'avoir prêché au Carmel de Verdun un dimanche d'élection. Très intéressant. Et puis, à cette pêche, entre guillemets, miraculeuse, Simon-Pierre qui va se ceindre d'un vêtement qui se jette à l'eau, parce qu'il a compris que c'est le Seigneur, puisque le disciple que Jésus aimait l'a aidé à comprendre. Il a fallu l'autre, quand même. Et puis, voilà, on se retrouve... sur la plage, on a tiré le filet, on a compté 153 poissons avec toutes les explications symboliques que vous savez. Et puis, il doit y avoir un moment quand même un peu étrange. Moi, j'imagine toujours ce moment. J'ai déjà essayé un peu de méditer sur ce à quoi ça devait avoir l'air. Quand même, Jésus a vécu pendant 3 ans, Saint Jean, avec les 12. Il les a préparés. Il leur a dit, ça va être difficile. Il y aura la croix, il y aura... Non, non, on va être fidèle, tu vas voir ce que tu vas voir. Surtout Pierre, hein, tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis en fait, patatras, ils se sont tous taillés. Il n'y en a qu'un seul qui est resté sous la croix. Il y en a même un qui a trahi formellement. C'était le premier dans le groupe. Et jusqu'à présent, Jésus s'est manifesté toute porte close au Cénacle avec Thomas, mais il n'y a pas eu de dialogue sur les questions de fond. Il n'y a pas eu un reproche de Jésus jusqu'à présent. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, psychologiquement, mais moi je me dis, après qu'on ait eu une mission et qu'on ait complètement foiré la mission et qu'on se retrouve devant celui qui vous l'a donnée, on n'est pas trop fiers. On se dit, quand est-ce que ça va venir, hein, est-ce qu'il va aborder la question quand même, ça. Il va y avoir une explication de gravure, il va se passer quelque chose. Et donc j'imagine Pierre un peu dans ses petites sandales, vous voyez, enfin, et puis les autres aussi. Et puis donc, voilà, aucun des disciples n'osait lui poser la question « Qui es-tu ?» Bah oui, j'imagine, ils ne sont pas fiers. Hein. Mais ils savaient bien que c'était le Seigneur, et Jésus va partager le pain, le poisson, ce fut la troisième fois, etc. etc. Jusque-là, tout va bien. Et puis, il y a ce passage où, après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit alors, paie mes agneaux. Une seconde fois, Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, sois le berger de mes brebis. Une troisième fois, il dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une troisième fois, m'aimes-tu ? Et il reprit, Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture, tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et sur cette parole, il ajouta, suis-moi. Ce passage, bien évidemment, vous le connaissez bien, vous l'avez déjà commenté, vous avez déjà prêché dessus. C'est un passage très émouvant. Un passage très émouvant puisque nous y voyons en particulier l'apôtre Pierre, cet homme qui était finalement assez sûr de lui et qui est passé par l'épreuve de la croix, à sa manière, à lui. Il a été mis en pauvreté. Finalement, il a peut-être plus suivi son maître qu'il ne l'imaginait. Il a été mis en pauvreté, il a été mis en vulnérabilité. Il a compris qu'il était pauvre, il s'est mis à pleurer aussitôt qu'il avait compris qu'il avait trahi son Seigneur. Et on imagine comme ça doit bouillonner dans sa tête et dans son cœur. On imagine, l'humiliation peut-être que ça a été lui, pour lui. Et voilà que Jésus lui pose une question absolument inouïe au bord du lac. Il va la lui poser trois fois. Comme pour réparer les trois trahisons. Par trois fois, Jésus, présent chez le grand prêtre, Pierre va nier le connaître. Et Jésus vient comme guérir chacune de ses blessures, chacun de ses péchés, en lui demandant « Est-ce que tu m'aimes ?» D'ailleurs, en commençant de manière audacieuse, « M'aimes-tu plus que ceci ?» On imagine qu'il y en a 10 autres à côté qui attendent. Pas simple. Vous imaginez votre modérateur. Alors, t'es meilleur que les autres Compliqué, Donc ça évoque des choses quand même. Faut que j'en parle avec lui. En tout cas, voilà ce dialogue. Et ce dialogue dont vous savez bien, parce que vous êtes des prêtres, vous avez fait de l'exégèse, que c'est un dialogue qui ne se comprend évidemment pas très bien en français, mais qui se comprend dans le grec de l'Évangile. Puisque vous savez que le texte de l'Évangile joue sur deux verbes. Pour signifier cet amour de Jésus. En grec, il y a 4 verbes au moins pour parler d'amour. En français, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Et il y a en particulier 2 verbes ici qui sont utilisés. Le verbe philein, pour parler d'amour, qui a donné, vous le savez bien, philosophie, philanthropie. Philein, c'est cet amour de réciprocité, c'est l'amitié. Et puis le verbe agapan. Ce verbe qui au début appartient au grec ancien, qui a été utilisé pour l'amour envers les divinités et que le christianisme va assumer comme étant une forme d'amour sans retour. Le don de soi sans réciprocité, gratuit. Jusqu'au bout. C'est l'amour même de Dieu. Vous savez que l'échange entre Pierre et Jésus donc joue sur ces trois verbes. Jésus va d'abord demander à Pierre « Est-ce que tu m'aimes ?» agapas mou, en utilisant le verbe « agapam ». C'est-à-dire « Pierre, est-ce que tu as un amour pour moi jusqu'au bout ?» Et Pierre va répondre « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Pierre va non pas utiliser le verbe agapan pour répondre, mais le verbe philein. Ce qui donne en français, Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour total ? Et Pierre, qui a été mis en modestie et en humilité, répond, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Comme dit Paul Evdokimov, l'humilité chrétienne, ce n'est pas l'humilité humiliation, c'est l'humilité vérité. Devant le Christ, nous sommes mis en vérité. Nous nous voyons tels que nous sommes, pauvres. Une seconde fois, Jésus lui dit « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» À nouveau, Jésus prend le verbe « agapan »« Est-ce que tu m'aimes d'un amour total ?» Et une seconde fois, Pierre répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il répond avec le verbe « philein ». S'il n'empêche pas, à ces deux occasions, Jésus de confirmer Pierre dans sa mission, paie mes agneaux, sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, il dit à Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Et là, le texte change de verbe. Alors que Jésus, par deux fois, a utilisé le verbe agapan, est-ce que tu m'aimes d'un amour total ? Jésus utilise lui-même le verbe philème. C'est comme si Jésus, prenant la mesure de la pauvreté dans laquelle se trouve Pierre, un peu comme avec la femme prise en flagrant délit d'adultère, se baissait pour se mettre à son niveau. Il va rejoindre Pierre dans sa pauvreté. Et on le voit d'ailleurs, puisque la réponse à la troisième question, on nous précise, verset 17, « Pierre fut attristé ». Il y a la tristesse de Pierre. Est-ce que tu m'aimes d'un amour total, Seigneur, j'ai de l'amitié pour toi. Est-ce que tu m'aimes d'un amour total, Seigneur, j'ai de l'amitié pour toi. Est-ce que tu as de l'amitié pour moi ? Oui. Je suis triste parce que je ne peux pas t'aimer d'un amour total encore, mais de l'amitié, ça j'en ai pour toi. Ce qui est fondamentalement consolant pour nous. Jésus ne nous demande pas de tout réussir tout de suite. Il ne nous demande pas d'être parfait. Et Pierre peut dire, alors toi qui connais toutes choses, ben oui, tu connais mon cœur, tu vois bien ma vie, tu vois bien ce qui s'est passé, Seigneur. J'ai vraiment de l'amitié pour toi, mais je n'ai que de l'amitié pour toi. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas plus. C'est ça ce que ça veut dire. Je ne peux pas plus. On a le droit d'être faible. On a le droit de ne pas tout réussir. On a le droit de se libérer d'un surmoi qui nous obligerait à toujours être les meilleurs, les formidables, les supermans de la pastorale, etc., etc. Vous savez ce que ça fait, les supermans de la pastorale, 3 fois sur 4, ça fait burn-out, dépression, on connaît. Je peux vous citer des listes. Mais Jésus continue alors, verset 18, « en vérité, je te le dis », et c'est de nouveau avec le redoublement. « En vérité ». La letheia, la vérité. Quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture où tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. Pour le moment, tu ne peux pas m'aimer totalement. Mais un jour viendra où on te ceindra les reins, où tu donneras ta vie pour moi et là, tu m'aimeras jusqu'au bout. L'annonce de la mort de Pierre, c'est l'annonce du moment où il vivra l'agapé. Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu, et sur cette parole, il ajouta « Suis-moi ». Il y a quand même de nouveau un petit détail qui nous énerve un peu. C'est que c'est quand même bizarre. Vous vous souvenez du chapitre 1 ? Quand André avait amené Pierre à Jésus, il n'avait d'ailleurs pas amené Pierre à Jésus, il avait amené qui ? Simon. Il lui a changé son nom. Il l'a appelé Pierre. C'est marrant parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là au chapitre 21, Simon, fils de Jean. Plus question de Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je navré de revenir avec mon judaïsme, hein, mais c'est peut-être, et peut-être même certainement, une indication du passage de la première à la seconde et à la nouvelle alliance. Dans le judaïsme, ce qui est très important, c'est les modèles. Il y a des modèles d'apôtres, des modèles de prophètes, pardon, des modèles de patriarches. Vous connaissez le modèle des prophètes. J'interroge des prêtres catholiques. Quel est le modèle des prophètes ? Le prophète Élie, il est à côté de Jésus à la transfiguration pour cette raison. Qui est le modèle des patriarches ? C'est Moïse. Moïse qui est à côté de Jésus à la transfiguration. Mais pour un juif, il n'y a pas que les prophètes et les patriarches, il y a un autre grand symbole, bien évidemment. C'est le modèle du grand prêtre. Et quel est le modèle du grand prêtre dans la tradition d'Israël ? Simon, fils de Jean. Et donc il n'est pas du tout impossible que Jésus, au moment où il s'adresse à Pierre, là, ou en tout cas la manière dont notre évangéliste, qui lui-même est peut-être prêtre, et lui-même de modèle sacerdotal, qui nous casse les pieds avec le temple et la liturgie du temple depuis 21 chapitres, nous ajoute ici encore une indication. Jésus confirme Pierre comme étant le nouveau pontife, comme étant le nouveau grand prêtre de l'Alliance nouvelle. Et c'est pourquoi il reprend son nom, qui est le nom du grand prêtre dans la tradition juive. C'est ce que nous voyons lorsque nous sommes à Rome, Pontifex Maximus, pontife de la Nouvelle Alliance, le successeur de Pierre. Chers amis, je vais m'arrêter là, en vous remerciant pour la qualité de votre écoute, et plus particulièrement de votre silence pendant ces jours. Petite feuille me demande ce qui m'a été demandé par quelques-uns d'entre vous. Est-ce que je pourrais recommander des sources à consulter pour approfondir l'éclairage culturel et liturgique juif de la liturgie de l'Évangile, de la lecture de l'Évangile, pardon. Il y a pas mal de choses qu'on peut lire. Il y a un auteur que j'ai conseillé à plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé, qui est un franciscain, professeur d'écriture sainte, de théologie biblique. Il s'appelle Frédéric Mans. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. M-A-2-N-S, toujours vivant. Il écrit beaucoup, il a beaucoup écrit sur les racines juives du christianisme. Moi, il m'a été très, très précieux. Vous avez des livres de Robert Aron. Robert Aron, c'est au seuil, ça a été réédité récemment. Il y a les années obscures de Jésus. Alors, les années obscures de Jésus, c'est tout simplement les années de l'enfance, où on ne sait pas très bien ce qu'il a vécu, mais où Robert Aron, grand connaisseur de la culture juive, nous dit qu'est-ce qu'a pu vivre Jésus, comment, dans quel milieu a-t-il vécu. Et il y a un livre qui s'appelle, le deuxième s'appelle « Ainsi priait Jésus enfant ». Voilà. Il y a les livres du père Naudet, qui est à l'école biblique de Jérusalem, qui est évidemment John Mayer, hein, qui est le grand travail publié au CERF en 5 volumes, et il y a des volumes qui peuvent être plus intéressants sur la culture juive, le milieu juif, où il nous donne, vous savez, c'est des bouquins rouges, hein, qui ont été publiés il y a une dizaine d'années. Et c'est quand même l'état, c'est un état assez, je trouve, assez intéressant. À la fois, il y a une vraie recherche exégétique avec tout ce qui peut parfois nous déranger sur des hypothèses, mais ça reste quand même relativement sérieux et c'est jamais dit de manière clivante. Voilà, ça ouvre des questions et ça établit aussi un certain nombre de certitudes. Voilà. Alors, il y avait évidemment, je sais bien, la personnalité évidemment aujourd'hui est problématique, mais ce qui n'empêche que ce qui a été écrit n'est pas inintéressant. Aux Béatitudes, vous aviez Ephraim qui avait écrit un certain nombre de choses, et aux Béatitudes, on avait publié plusieurs ouvrages sur le judaïsme qui ne sont pas intéressants et qui demeurent tout à fait, au niveau culturel, je dirais, intéressants. Voilà. Le fait que quelqu'un ait des problèmes ensuite n'empêche que ce qui a été écrit a été écrit. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Voilà, sur la liturgie juive, il y avait Louis Bouillet qui avait écrit quelque chose très intéressant sur le rapport entre liturgie chrétienne et liturgie juive, comme vous le savez certainement. Le titre m'échappe là. Puis nous avions un père spiritain, moi quand j'étais au séminaire français, qui était prof à l'Institut biblique, qui avait écrit aussi sur la Pâque du Christ. Ça m'échappe. C'est peut-être moins important que le livre de Bouillet qui, lui, est tout à fait intéressant. Voilà. Je vais m'arrêter vraiment en vous remerciant encore une fois, en remerciant la communauté Saint-Martin de l'excellente préparation, organisation, parce que vraiment nous avons eu, je crois, des conditions optimales pour vivre cette retraite. Et puis si je peux me permettre de vous dire encore quelque chose avant de partir, aimons Jésus, aimons notre ministère et aimons l'Église.
Paul étant parti, puisqu'il est en rendez-vous avec Mgr Mika, il m'a demandé de vous remercier.